Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Deux mots qui témoignent d'une forte ambition. France 2030, c'est le nom du plan d'investissement que le président français Emmanuel Macron détaillera demain mardi depuis l'Élysée. Un plan doté d'une trentaine de milliards d'euros qui doit prendre la suite du plan de relance, qui doit cibler des secteurs porteurs d'avenir. Alors on peut citer les semi-conducteurs, les biotechnologies et la santé, les batteries, l'hydrogène ou encore la décarbonation de l'industrie. L'objectif de France 2030, c'est un numéro d'équilibriste, remettre la France sur le devant de la scène face aux champions américains et asiatiques tout en réduisant l'empreinte environnementale d'un secteur, l'industrie, qui reste, il est vrai, très polluant. Alors quelles sont les priorités en vue de la France de 2030? Comment financer ces nouveaux investissements? Et seront-ils suffisants pour reconquérir, comme l'affiche ce plan, reconquérir la souveraineté industrielle de la France? Voilà notre débat ce soir, soyez les bienvenus.
RFI.
Et pour répondre à nos questions, nos trois invités, à mes côtés d'abord en studio, Nadine Lovrato, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, directrice de recherche au CNRS à l'Université Paris-Nanterre. Face à vous, également en studio, Vincent Charlet, bonsoir.
Bonsoir.
Délégué général du think tank La Fabrique de l'Industrie. Et notre troisième invité est en ligne avec nous ce soir, Aloïs Kirchner, bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste de la politique industrielle à l'Institut Montaigne. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Ma première question, Nadine Lovrato, sur quelle technologie, quelle filière d'avenir, selon vous, est-ce qu'il faut miser justement en vue de cette échéance de 2030?
Alors, il y a beaucoup de questions derrière une question qui peut paraître simple au premier abord. Peut-être un petit peu en arrière, au préalable, vous avez rappelé que l'industrie était très polluante. L'industrie, c'est 26% des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc, ce n'est pas la majorité, loin s'en faut. C'est un gros quart, disons. L'essentiel, ce sont les transports, le logement et le tertiaire, qui sont les plus gros producteurs de gaz à effet de serre direct. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, l'essentiel, la majorité de nos émissions sont des émissions importées. C'est-à-dire que ce sont des biens industriels qui viennent principalement d'Asie, d'autres pays d'Europe, et qui entrent soit en tant que biens de consommation, soit en tant que biens de production utilisés par d'autres entreprises, donc pour fabriquer des choses en France. Alors, maintenant, l'industrie a déjà fait de gros efforts pour se décarboner au cours des dernières années. Et là, vous avez énoncé des secteurs, l'hydrogène, les nanotechnologies.
Ce sont les secteurs qui sont évoqués concernant le plan qui sera annoncé demain.
Qui ne sont pas nouveaux. Enfin, il n'y a aucune surprise. Il y a le nucléaire avec les fameux SMR, Small Modular Reactors. Les mini-centrales, oui. Donc, il n'y a rien de radicalement nouveau dans ce qui est annoncé. Ce sont des secteurs qui sont prometteurs depuis 10-15 ans pour certains. Hein. L'hydrogène, on en a parlé dès le début des années 2000. Les mini-centrales, les Sud-Coréens, les Japonais, les Canadiens, les Chinois en produisent depuis longtemps. Ils en sont aujourd'hui à la quatrième génération de ces centrales-là, et il y avait en 2019 un rapport de l'IFRI qui disait que justement la France était en retard. Donc ce n'est pas vraiment une nouveauté.
Mais alors vous avez commencé votre première réponse en parlant d'environnement. Je vous demandais quelle était la priorité pour 2030, quelles allaient être les filières d'avenir, les technologies. Vous me parlez de l'environnement, donc c'est la première priorité pour 2030.
Ce devrait être vraiment la première priorité. D'ailleurs,
tiers du plan d'ailleurs qui doit être annoncé demain, qui doit être consacré aux mesures en faveur de la transition écologique.
De même qu'un tiers du plan de relance était supposé l'être déjà. Quand on regarde les enquêtes qui ont été faites, dont celle de l'Institut Jean Jaurès, l'environnement Et l'écologie sont les premières préoccupations des Français. Et à raison, hein, puisque non seulement c'est la voix du peuple, on va dire, mais c'est aussi les rapports du GIEC, l'ONU. Donc, il faut vraiment insister là-dessus. Maintenant, pour faire des technologies qui soient favorables à l'environnement, on n'est pas obligé d'ajouter des choses. Vous voyez, on peut aussi mettre en place des innovations qui permettent plus de sobriété. Sobriété en matière, sobriété en eau, sobriété en énergie. Et ça, ce sont des innovations qui sont aussi intéressantes parce que ça permet de faire autant avec moins. Et c'est bien l'enjeu que l'on rencontre aujourd'hui, puisque on sait que les pics sont soit passés, soit très proches de nous, pic de production de pétrole, pic de production de gaz. On voit aujourd'hui le coût du gaz, de l'électricité qui explose. C'est pas juste un épiphénomène, ça va être durable. Donc il est vraiment important de faire des technologies qui permettent d'économiser les flux entrants dans les processus industriels. Et là, on reste un peu sur sa fin.
Vincent Charlet, est-ce que vous avez l'impression, ce qui commence à ressortir de ce fameux plan France 2030 qui émerge, de rester vous aussi déjà sur votre faim? Il n'y aura pas assez, comme le dit Nadine Lavrato, de mesures en faveur d'un investissement durable, environnemental. On rappelle les objectifs effectivement de la France, ils sont importants, hein, la neutralité carbone en 2050 qui est inscrite dans la loi fin 2019.
Oui, mais je le formulerai pas comme ça. Je dirais plutôt que il va falloir savoir faire du judo pour réorienter, pour déséquilibrer l'adversaire, si j'ose dire, si on dit que le changement climatique est l'adversaire, et réorienter des comportements déjà présents. Pourquoi je dis ça? C'est parce que bon, le chiffre qui circule, c'est environ 30 milliards pour ce plan France 2030. Et chaque année, l'industrie française, juste l'industrie, a investi 100 milliards en gros. Donc ce plan, il arrive dans un paysage qui n'est absolument pas vierge. On estime aussi que les entreprises et les ménages font chaque année ensemble 70 milliards d'investissements dans des procédés jugés défavorables au climat. Bon. Donc, une fois qu'on replace ces grandes masses-là, quand je parle de faire du judo, c'est que avec des moyens qui sont... certains diraient colossaux à l'aune de l'état des finances publiques, mais qui sont en fait limités par rapport à tout ce que les particuliers et les entreprises dépensent comme investissement chaque année. Il faut réussir à convertir des efforts gris en efforts verts. Il faut réussir à convertir des efforts qui sont pour l'instant neutres, voire défavorables sur le plan du climat, en des efforts d'investissement qui pourront être plus vertueux.
Mais par rapport aux sommes que vous avez avancées, ça veut dire 30 milliards, ça suffit absolument pas. Et d'ailleurs, ça a été les conclusions.
Ça signifie, pardon de vous interrompre.
Il y a les économistes Olivier Blanchard et Jean Pisani-Ferry qui avaient chiffré les besoins dans ce domaine de France 2030 à beaucoup plus de 50 milliards. Et il y a des chiffres encore supérieurs qui ont été avancés.
Pour moi, ça veut dire que il ne faut pas attendre d'un plan d'investissement comme celui-là qu'il réponde à lui seul aux problèmes et aux défis qui sont devant nous, et en particulier celui du changement climatique. Je parlais de faire du judo. Il faut réussir à établir un jeu gagnant, une complémentarité gagnante avec des efforts d'investissement qui sont aujourd'hui faits par les particuliers et par les entreprises. Faire en sorte, par exemple, que la construction des bâtiments se fasse au profit de bâtiments économes en énergie, que l'achat de véhicules se fasse progressivement au profit de véhicules sobres, voire totalement décarbonés. Vous comprenez, il faut réorienter les comportements.
Mais alors, c'est pas le bon paradigme, parce que là, il cible clairement ce plan des secteurs précis.
Je serais pas aussi sévère que vous. Bon, j'ai cru comprendre qu'il y avait trois tiroirs à ce plan qui sera annoncé demain. Un premier qui souffre, je crois, aucune contestation, c'est celui des compétences. Pourquoi ? Parce que l'investissement dans les compétences, les savoir-faire, a un effet démultiplicateur sur les autres investissements. Vous tirez un meilleur profit de l'argent que vous avez mis dans la R&D, par exemple, dans les machines même.
La recherche et développement.
Oui, si vous investissez en même temps dans la formation et les compétences. En gros, des salariés formés rendent vos machines utiles et performantes, pour faire très court. Donc ça, c'est un premier tiroir du plan qui sera annoncé demain. Un deuxième, c'est effectivement, ça a été dit, l'énergie décarbonée, moins chère normalement que l'énergie nucléaire. Je pense, à titre personnel, même si on peut en débattre, que ça fait partie des atouts compétitifs forts du tissu productif français. et sur lesquels nos entreprises ont besoin de s'appuyer pour amorcer une transition énergétique à long terme. Et troisièmement, effectivement, le troisième compartiment de ce plan de relance, ce sont des domaines techniques précis, plutôt arrivés à maturité. On ne parle pas de science-fiction. On parle, Nadine l'a dit, on parle de technologies qui sont, en tout cas dans les plans, pas totalement sorties de nulle part. Mmh. On a déjà entendu parler. Si ça peut jouer un rôle de verrou technologique, enfin plus exactement, lever certains verrous technologiques et permettre à des filières d'avancer et d'être un peu en situation conquérante, je pense que ce n'est pas forcément un mauvais calcul. Encore une fois, avec des moyens qui sont, à l'aune de ce qu'on a dit, assez limités.
En tout cas, c'est intéressant parce que vous nous avez expliqué comment pourrait être coordonné justement ce plan France 2030 qui sera annoncé demain par Emmanuel Macron. Aloïse Kirchner, on ne vous a pas encore écouté et c'est important parce que vous allez peut-être nous donner des exemples. Vous venez de publier aujourd'hui, je rappelle que vous êtes spécialiste de la politique industrielle à l'Institut Montaigne, et vous avez publié aujourd'hui la note « Automobile, feu vert pour une industrie durable ». Alors ça va être un bon élément illustratif par rapport à cet enjeu environnemental de la France de 2030 qu'on évoque, parce que l'automobile, c'est le secteur qui investit le plus dans la recherche et développement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette note que vous avez rédigée vous-même aujourd'hui ?
Oui, merci beaucoup. Déjà, ce que je peux dire, c'est que concernant l'automobile, mais ce serait vrai de beaucoup d'autres secteurs, je pense que ce plan d'investissement, il tombe au bon moment. Le timing est excellent parce qu'on est dans une période où ce secteur est à un tournant. Il est soumis à la fois à la pression environnementale, parce qu'il faudra que la voiture de 2030 émette beaucoup moins de CO2 et de polluants locaux qu'aujourd'hui. Il fait face à une pression et à un tournant numérique, parce que la voiture de 2030, elle sera probablement autonome, elle sera probablement beaucoup plus connectée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et par ailleurs, à cause de ces deux tournants, l'industrie automobile française est soumise à des pressions qu'elle n'a jamais connues. D'un point de vue économique, parce qu'elle a toujours, et c'est malheureusement vrai de beaucoup de composants de notre industrie, elle a un problème de compétitivité. Chaque voiture en France qui est produite, elle coûte entre 300 et 600 euros plus cher à assembler que dans les pays d'Europe du Sud ou de l'Est, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments sur le coût de la main-d'œuvre, sur les taxes à la production, qui sont moins favorables en France que dans ces pays-là. Et puis, par ailleurs, il y a des nouveaux entrants. Le monde, nous ne sommes pas seuls, l'industrie c'est un secteur qui est soumis à une forte concurrence internationale, et donc à cause des deux révolutions numériques et environnementales, il y a des entrants américains, on peut penser à Tesla, chinois, il y a un nombre innombrable de constructeurs chinois qui se sont lancés dans l'électrique, qui n'ont qu'une envie, c'est de prendre la place de ceux qui aujourd'hui occupent le marché, et nos constructeurs européens. Et donc c'est pour ça que c'est le bon moment d'investir dans l'automobile, parce que on a tous les bons ingrédients en France pour y arriver, mais en même temps il faut être capable de relever ces défis. Et c'est pour ça que dans la note que j'ai écrite avec l'Institut Montaigne, on propose de réserver une part significative, on parle d'entre 600 millions et 1 milliard d'euros par an, pour accompagner tous les investissements qui vont être nécessaires pour réussir cette transition au niveau des industriels de l'automobile, pour leur permettre d'implanter en France les usines nouvelles de batterie, d'assemblage, d'y développer les bonnes technologies, d'y faire de la recherche et développement. Et ça, c'est à la fois bon dans l'absolu pour l'économie et l'industrie française, mais c'est aussi bon pour l'environnement. Parce que, comme vous le savez, en France, on a une électricité qui est décarbonée. Et d'ailleurs, on pourra en reparler sur le nucléaire, sur le développement des énergies décarbonées, qui est aussi visé par le plan France 2030. Et donc, une batterie de voiture électrique qui est produite en France, elle contient entre 2 et 3 fois moins de CO2 qu'une batterie produite, par exemple, en Chine. Et ça, c'est très, très important, parce qu'aujourd'hui, dans une voiture moderne, hybride rechargeable par exemple, il y a plus de la moitié des émissions de CO2 qui sont émises durant la fabrication de la voiture, pour faire la batterie, l'acier qui compose le véhicule, plus que dans la partie de circulation sur la route de cette voiture. Donc de ce côté-là, ce plan, il tombe vraiment à pic et il s'illustre parfaitement dans le domaine de l'automobile. Si vous me permettez, juste encore un petit commentaire plus large par rapport à ce qui a été dit. Moi, je vous confirme que je pense que c'est un très bon moment pour faire ce plan d'investissement. Sur le montant, il ne faut pas oublier qu'on parle juste de l'investissement public qui va avoir lieu. Et ça a été dit, 30 milliards pour ce plan, mais il y avait déjà un plan d'investissement d'avenir de 20 milliards qui n'a pas commencé à être dépensé. Donc en fait, c'est plutôt 50 milliards qu'on a en tout et qui va faire levier sur de l'investissement privé. Ça doit être un petit peu l'étincelle, le coup de booster qui permet de se lancer. Sur les secteurs, très bien d'aller dans des secteurs sur lesquels on a déjà des bases en France, mais qui sont soumis à des tournants, à des révolutions, un peu comme ce qu'on a vu sur l'automobile. Et on pourrait penser aussi au domaine de la santé. On a bien vu pendant la crise sanitaire qu'il y avait des choses à faire, qu'on avait une excellente recherche en France et qu'on pourrait aller plus loin. Et enfin, peut-être un point qui sera sujet à débat, c'est celui de la gouvernance. Parce que le vrai sujet, c'est pas de décider maintenant de tous les secteurs et de tous les projets, c'est certes d'avoir une ligne stratégique, mais d'être capable ensuite, de manière très agile, pendant les 10 années qui viennent, de réorienter cet argent là où il sera le plus utile.
Merci à Luz Kirchner, Nadine Levrato. J'arrive pas à voir derrière le masque, j'ai eu l'impression que vous faisiez des signes où vous n'étiez pas d'accord. Est-ce que miser sur l'automobile, ça peut paraître contraire hein, dans les objectifs climatiques, en tout cas à l'opposé. En tout cas, est-ce que c'est secteur d'avenir pour 2030, c'est pas annoncé comme tel par le plan France 2030? Qu'en pensez-vous de ce que nous a dit la Luz Kirchner?
Bon, 2030, c'est pas si loin non plus. Hein. On n'est pas sur des projections et des stratégies à très long terme. Le véhicule électrique, là encore, on est dans une technologie qui est relativement mature, sur laquelle il y a déjà des années de recherche et développement, des projets d'implantation d'une gigafactory, donc il va produire des batteries dans le nord de la France, qui sont déjà actées. Le véhicule, qu'il soit électrique ou pas, ne va pas résoudre le problème d'engorgement des centres-villes. Que vous soyez dans un embouteillage dans votre voiture avec moteur diesel ou dans votre véhicule électrique, en termes de perte de temps, c'est exactement la même chose. Et je crois que
clairement, c'est pas la bonne solution selon vous.
Non, ça ne devrait pas du tout être la seule solution. C'est-à-dire que c'est une des caractéristiques de ce plan qui n'est pas le seul hein, à avoir cette caractéristique-là. Le plan de relance était pareil, ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on fonctionne de la sorte, c'est-à-dire que, en fait, l'État fixe des grands caps, va dépenser, après avoir dépensé 100 milliards pour le plan de relance, là on ajoute 30 milliards au pot, mais derrière, à part des grandes lignes, il n'y a pas de dépenses d'investissement proprement dites. C'est-à-dire que on va fixer un cap, dire aux entreprises, mais voilà, allez-y, investissez. La banque publique d'investissement va compléter, mais donc on crée de la dette sans investissement matériel derrière. Et ça, c'est un problème parce que justement, contrairement à un réseau ferré qui va rester à la collectivité, là, la collectivité n'aura rien de tangible.
Alors effectivement, créer la dette, on va en parler aussi parce que effectivement, ça creuse cette dette publique avec ce plan qui intervient après le plan de relance déjà de 100 milliards d'euros. La dette publique a atteint le niveau record de 118% du PIB et un déficit estimé à 9,4%, je vais le préciser. À Luz Kirchner, vous souhaitez réagir rapidement hein, parce que j'aurais passé la parole à Vincent Charlet après pour faire avancer le débat. Allez-y, je vous écoute.
Oui, non, mais en un mot, c'est de l'investissement tout ça. Quand on parle de créer des usines, c'est de l'investissement. C'est pas des dépenses qui vont s'envoler et s'évaporer. Et dans la note que j'ai écrite à Cassius Montaigne, on évalue sur la base des études économiques qui ont pu être faites sur le sujet, qu'on pourrait voir remonter de 25% avec le programme que nous proposons, le nombre de voitures qui sont produites en France. Tout ça, ça va générer des impôts, ça va générer de l'activité. Et donc, ça va permettre de rembourser cette dette. Donc, je crois qu'il ne faut pas opposer un investissement qui serait 100% public avec un investissement privé. À la fin, ce qui compte, c'est que l'argent aille aux endroits les plus efficaces pour développer de l'activité économique dans le futur.
Vincent Charlet, je vais citer Emmanuel Macron quand il a dressé les contours de ce plan France 2030. C'était 12 juillet, lors de son adresse à la Nation. Donner au TGV Ariane Concorde ou réacteur nucléaire des successeurs à la mesure des révolutions technologiques du 21e siècle, c'est extrêmement ambitieux. La France ne manque pas de plans. Hein. Il y en a eu les mandats précédents, évidemment. On peut citer le début des années 2000, le lancement des pôles de compétitivité. Hein, c'était pour rapprocher les entreprises, les universités, les organismes de recherche. On peut citer ce qu'avait fait Arnaud Montebourg en 2013, 34 plans d'investissement. Est-ce que c'est un plan de plus ou est-ce que là, vous avez l'impression qu'on est clairement à un tournant?
Alors, il y a deux différences qu'il faut, à mon avis, souligner. La première, c'est que on parle là d'un effort qui est en immédiate sortie de crise. Et ce timing-là rend la question particulièrement cruciale. C'est-à-dire que les politiques publiques qui ont été déployées partout dans le monde pour encaisser le choc de la crise ont, dans l'ensemble, bien fonctionné. Au sens où le coût économique de la crise Covid a été très fortement collectivisé, à la grosse louche, 2/3 pour les finances publiques et 1/3 pour les entreprises. Le chômage n'a pas bondi partout, ou en tout cas pas durablement. Les entreprises peuvent redémarrer bien plus vite qu'à la suite de la crise de 2008. Bref, de ce point de vue-là, c'était plutôt, on va dire, un satisfecit. Compte tenu de la gravité tout de même de cette crise, gravité historique.
Il y a eu des blocages des aides en France, des aides publiques, ça a été très important, effectivement.
Oui, mais les modalités, notamment le recours au chômage partiel, ont permis à cette aide publique d'être beaucoup plus efficace, en fait, et de donner aux entreprises et aux acteurs économiques plus de réactivité, plus de résilience qu'en réponse à la crise précédente en 2008. Donc, simplement... un retard pris dans le redémarrage aurait été préjudiciable. C'est-à-dire qu'une fois, on va dire, l'incendie est contenu, ce qu'il fallait, c'était ne pas redémarrer en retard par rapport aux autres économies.
Et là, donc, on redémarre en retard ?
Non, mais justement, mais vous disiez, est-ce que c'est un plan de plus ? De ce point de vue-là, c'est pas n'importe quel plan, c'est un plan qui permet aux entreprises et au tissu économique de redémarrer avec une certaine vigueur à un moment où tout retard serait fortement préjudiciable. Ça, c'est le premier point.
Et c'est le moment aussi parce que la croissance est au rendez-vous, il faut le préciser. On est quasiment... En 2022, normalement, il y a l'espoir qu'on revienne au niveau d'avant-crise. Là, oui. le PIB, plus 0,9% au deuxième trimestre, on est encore en augmentation par rapport à ce qui était prévu.
Oui, mais ce n'est pas une mauvaise chose de viser l'investissement.
Oui, c'est un contexte
plutôt
favorable.
Plutôt que la relance directe et pure, au risque qui peut-être le risque de créer une surchauffe. Deuxième différence entre les plans d'avant auxquels vous avez fait allusion. Il y a une différence majeure entre TGV Ariane, etc., et des plans plus récents, c'est que les premiers, qui ont, je crois, remporté un certain succès pour la plupart d'entre eux, ont été mis en œuvre par des opérateurs forts, des opérateurs puissants, et en particulier des institutions publiques à qui on avait dit « Ariane, c'est vous qui allez le faire, c'est vous qui allez construire. Le TGV, c'est vous qui en êtes en charge, etc. etc. » Et mine de rien, c'est pas un détail, cette affaire-là. C'est-à-dire que tant qu'on ne réfléchit pas à cette partie du sandwich qu'est l'ensemble des agents de services publics qui vont avec des réunions, des machins, donc ça fait des frais, mais il faut bien les mettre en œuvre, ces intentions, tant qu'on ne dédie pas un effort particulier à ça, les caps stratégiques, les plans, les priorités, c'est quelques lettres couchées sur un papier et c'est tout. Et donc, est-ce que ça sera un plan de plus ou pas ? Pour l'instant, j'en sais rien. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait des opérateurs qui soient chargés de le mettre en œuvre.
Et notamment, je me vais d'accélérer parce que le temps tourne, mais il y a aussi l'idée à quel point l'État doit avoir la main, à quel point l'État doit laisser la main aux entreprises sur le modèle américain. Et le président français s'inspire énormément de ce que fait le président américain, par exemple.
Oui, mais je ne suis pas convaincu que les entreprises aient toujours la main aux États-Unis. À nouveau, ce genre de cap stratégique, de plan stratégique, est confié à des agences. Kennedy a dit « on ira sur la Lune » et pouf, il y a eu des agences qui étaient en charge de dépenser les milliards en conséquence.
Nadine Levrato, votre position sur ce sujet-là ?
Ce que dit Vincent est extrêmement important. Il faut des opérateurs. Et l'enjeu, justement, c'est de trouver des entreprises, des établissements publics qui puissent porter sur la durée ces projets-là. Alors, je crois que dans le plan 2030, il y a aussi cette idée de réconcilier l'industrie et les start-up. C'est un discours qui a couru. Alors, j'ai regardé
Startup Nation.
Voilà, les plus grosses levées de fonds en 2021. Qui reproduisent à peu près la structure des plus grosses levées de fonds en 2019, 2020.
Bon. Allez-y.
C'est dans les services, supply chain, comptabilité, paiement fractionné, c'est dans...
Alors, vous pouvez vulgariser pour l'auditeur qu'est-ce que ça signifie ?
Oui, alors ça veut dire qu'on est vraiment dans du service pour faire circuler l'argent. D'accord, des techniques comptables, des techniques de paiement. On a une start-up qui a énormément levé de fonds en facilitant la recherche d'emploi, développant des algorithmes, donc on est dans de l'informatique. La plus grosse levée de fonds, ça a fait son petit buzz dans la presse, c'est des cartes, des échanges de cartes de footballeurs avec une blockchain pour s'assurer de l'authenticité de la carte. Alors, si on doit confier le futur de l'industrie française à des investisseurs qui...
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ?
Ça veut dire qu'il faut organiser ça et que le marché seul n'est pas capable d'orienter l'argent vers les secteurs qui vont être les plus producteurs.
Et donc nécessiter qu'il y ait ces opérateurs que vous mentionnez, que Vincent Charlet mentionnait également ?
Bien sûr.
Et vous, Aloïs Kirchner, qu'en pensez-vous ?
Là où je rejoins Vincent Charlet et Nadine Lerato, c'est que je crois que la puissance publique a un rôle essentiel à jouer. Et il faut que les personnes qui vont piloter ce plan soient dans une situation où ils puissent prendre des risques. Parce que trop souvent, dans la décision publique, on fait des comités, on dilue la prise de décision, et à la fin, on se retrouve avec de l'eau tiède, et c'est absolument ce qu'il faut éviter ici. Donc j'espère qu'il y aura un mode de gouvernance qui aura été mis en place, qui permette à des gens de décider et de maintenir dans la durée, dans une durée suffisante, des axes de décision qui prennent ces risques et des risques qui sont intelligents, pesés et mesurés. Là où je suis plutôt en désaccord, c'est que je crois que, au contraire, l'innovation passe aussi par les startups et que quand on regarde aujourd'hui, il y avait une autre annonce de levée de fonds, ou hier peut-être, c'était que SpaceX avait dépassé les 100 milliards de valorisation à la suite d'une levée de fonds. Or, qu'est-ce que SpaceX, si ce n'est de l'industrie ? Et en France, on a potentiellement des SpaceX de demain. Il y a des startups dans le domaine de l'agroalimentaire, par exemple, qui veulent développer les protéines de demain, c'est 100% industriel, qui peuvent se développer. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on développe les paris raisonnés qui vont permettre de développer en France ces startups industrielles de demain. Et donc j'espère que dans le plan qui sera présenté demain, on aura ces mécanismes qui permettront de prendre les bons risques et en même temps donner le coup de booster qui est nécessaire à ces startups industrielles de demain.
Est-ce qu'il y a le risque d'opposer startups et industrie ?
J'ai l'impression que c'est le contraire qu'on veut faire ici, c'est qu'il s'agit de les réconcilier.
Bien sûr.
Mais oui, c'est un risque. Enfin, en tout cas, c'était un peu le risque jusqu'ici, puisque c'est vrai, les startups, au départ, c'était les startups du web, c'était à l'extrême, effectivement, ce service de cartes de footballeurs à échanger, qui les différentes plateformes de services dont on a d'abord entendu parler. Et ce qui caractérise l'industrie, c'est que souvent, il y a des cycles plus longs de développement. L'avantage qu'avaient les purs services numériques, c'est qu'en quelques mois, ou plus en quelques années, on pouvait se développer très 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 vite. Dans l'industrie, les temps sont plus longs, et en même temps, c'est un peu la nouvelle frontière. C'est là qu'on va développer ce qui va vraiment changer la vie demain. Ce qui va changer la vie demain, c'est pas des messages en 160 caractères, pour paraphraser des penseurs américains, c'est le fait d'aller sur Mars, de développer des protéines de synthèse qui vont nous permettre de mieux préserver l'environnement et d'arrêter peut-être l'élevage intensif demain. C'est les biotechnologies qui vont nous permettre de guérir tout un tas de maladies et d'allonger l'espérance de vie de nos concitoyens. Et donc c'est ça, en fait, le pari qu'il faut prendre.
Et de créer l'Elon Musk français, a dit Emmanuel Macron, le patron de Tesla. Vincent Charlet, le mot de la fin, très rapidement, il nous reste un peu moins de 10
minutes. C'est un chiffre. L'industrie, c'est environ 10 à 12% du PIB, 10 à 12% de l'emploi, en France comme aux États-Unis. Et c'est environ 10 à 12% des startups en France et aux États-Unis, des petites startups, des grosses startups, des startups très dotées en financement aujourd'hui. Donc, on pourrait souhaiter que ce soit plus, mais les startups, qu'elles soient françaises ou américaines, ont un appétit d'industrie qui est à peu près le reflet de ce que l'industrie représente dans nos vies.
Eh bien, ce sera mot de la fin. Merci beaucoup. Merci. Vincent Charlet. À suivre donc demain France 2030, la présentation de ce plan par Emmanuel Macron depuis l'Élysée. Vincent Charlet, délégué général du think tank La Fabrique de l'Industrie. Nadine Lerato, merci. Économiste et directrice de recherche au CNRS à l'Université Paris-Nanterre. Et merci à Laouis Kirchner, spécialiste de la politique industrielle à l'Institut Montaigne. Merci à Florence Pons qui m'a aidé à préparer ce débat, à Jean-Philippe Thury qui l'a réalisé. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale dans 30 secondes, c'est RFI Soir.
Tous les jours, Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Garbrandt.
Ce lundi, quand la morale et les affaires font mauvais ménage, Plusieurs entreprises sont accusées de profiter du travail forcé de la minorité Ouïghour en Chine. Nous irons en reportage en Allemagne, où ces entreprises font l'objet d'une plainte en justice.
Accent d'Europe, du lundi au vendredi, à partir de 19h10 TU, sur RFI.